Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le président séparatiste de la Catalogne va-t-il proclamer l'indépendance de la région ? Carles Puigdemont s'exprime dans un instant devant le Parlement catalan. Nous irons à Gérone, où la foule s'est rassemblée pour l'écouter. La peine de mort recule dans le monde. 141 pays y ont renoncé. État des lieux avec Nadine Epstein. En France, la journée de grève des fonctionnaires a été diversement suivie. Selon la CGT, 400 000 personnes ont manifesté dans toute la France. Reportage à Paris d'Annabelle Grelier. La sécurité des centrales nucléaires en question. Selon Greenpeace, les risques d'actes malveillants et d'attaques terroristes ne sont pas assez pris en compte. Affirmation contestée par EDF. Véronique Ruberot s'est penchée sur ce dossier. Les séparatistes espèrent que c'est le grand soir. Le président de Catalogne, Carles Puigdemont, s'apprête à prononcer un discours devant le Parlement catalan. Parlement totalement bouclé par la police espagnole. Le parc qui l'entoure a été fermé pour raison de sécurité. Le chef de l'exécutif doit évoquer les conséquences du référendum d'autodétermination organisé le 1er octobre, scrutin jugé illégal par Madrid. Nous partons tout de suite à Gérone, dans le nord de la Catalogne. C'est un fief indépendantiste. Carles Puigdemont en a été le maire. Et la foule s'est rassemblée devant des écrans géants pour suivre son discours, Sébastien Berriot.
Les habitants de Gérone sont ce soir plusieurs centaines à avoir fait le déplacement devant leur mairie. Tout le monde est rassemblé devant l'écran géant qui a été installé pour écouter l'intervention du président catalan. On est ici au cœur de l'une des provinces les plus indépendantistes de la Catalogne. Et il y a donc ce soir beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Les visages sont empreints d'une certaine gravité, notamment chez les partisans les plus anciens de l'indépendance. Javier, par exemple, un Gironais de 72 ans, me disait que ce 10 octobre était pour lui un jour historique après des années de lutte. Les gens ce soir semblent vouloir faire confiance à Carles Puigdemont, qui a été maire de la ville entre 2011 et 2016. L'homme est connu pour être un indépendantiste de la première heure qui n'a jamais rien lâché. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a le contexte, les fortes tensions avec Madrid. Alors on s'attend plutôt ce soir à une déclaration d'indépendance symbolique avec un délai derrière pour mettre tout ça en application. Les indépendantistes les plus radicaux, comme Sergi, avec qui j'ai pu parler, me disent déjà qu'ils seront déçus si cette solution est retenue. Tout le monde, en tout cas, est conscient que les mois à venir seront compliqués avec la menace de Madrid, qui est plus que jamais d'actualité. La suspension de l'autonomie de la Catalogne.
Merci Sébastien Berriot. On vous retrouvera peut-être dans quelques minutes si le président de l'exécutif catalan fait des annonces importantes avant la fin de ce journal. Carles Puigdemont espérait une médiation internationale, mais pour l'instant aucun pays n'a soutenu ouvertement la cause des indépendantistes et ils ne doivent pas compter sur l'Union européenne. Cet après-midi, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a demandé au président catalan de ne pas annoncer une décision qui rendrait le dialogue impossible. Et depuis Francfort, où il inaugurait la foire du livre avec la chancelière allemande, Emmanuel Macron a expliqué que ce n'était ni le rôle de la France ni celui de l'Europe de mener une médiation. Écoutez le chef de l'État.
Je ne peux pas, en tant que chef d'État, voisin et ami, reconnaître sur un pied d'égalité le Premier ministre espagnol et le président de la communauté de Catalogne. Et les institutions européennes ne peuvent pas faire cela. Il n'est pas de leur compétence, il n'est pas de notre histoire, il n'est pas du sens de notre histoire de procéder à cela. Et pourquoi tout le monde a cette prudence ? Parce que demain, un land décide de contester la chancelière, il en appelle aux institutions européennes et puis il dit « Attention, moi je vais faire des référendums chez moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi demain je peux avoir une région en France qui se lève et qui dit « S'il en est ainsi, j'en appelle aux institutions européennes » et on a des institutions qui deviennent les arbitres des élégances de tous les sujets d'intérieur. » Non.
On vient d'entendre la position d'Emmanuel Macron. Pas question de soutenir ses velléités d'indépendance de la Catalogne. Éric Bigala, les mises en garde se sont succédées. Le gouvernement espagnol a parlé de suspendre l'autonomie de la région. Il y a aussi les menaces économiques avec l'annonce du transfert des sièges sociaux de grandes entreprises. Proclamer l'indépendance, c'est donc prendre beaucoup de risques.
Oui, il faut dire Aurélie que les pays qui sont devenus indépendants au cours des 100 dernières années en Europe l'ont pratiquement tous été suite à des crises, souvent violentes, voire de véritables guerres. C'est le cas des trois pays baltes qui livrent leur première guerre d'indépendance en 1918 et qui deviennent indépendants pour 2 ans seulement avant de repasser manu militari sous la coupe de l'Union soviétique. Ils ne recouvreront ces indépendances qu'en 1991, pacifiquement cette fois, avec la fin de l'Union soviétique. Chypre accède également à la souveraineté au cours du siècle dernier, en 1960 exactement. Là aussi, c'est une lutte armée qui est à l'origine de cette indépendance, une sorte de guerre anticoloniale conduite contre la couronne britannique, mais par des nationalistes grecs qui n'avaient pas à proprement parler l'indépendance de l'île comme objectif, mais le rattachement de celle-ci celle-ci à la Grèce. Chypre, d'une certaine manière, devient indépendante par défaut. Et d'ailleurs, 14 ans plus tard, alors que les nationalistes tentent toujours de rattacher l'île à la Grèce, la Turquie y lance une opération militaire en soutien à la minorité turque. Depuis, l'île demeure coupée en deux par une ligne de front. C'est la dernière qui est active en Europe. Et puis il y a eu bien sûr les indépendances nées de l'explosion de la Yougoslavie. 8 nouveaux États verront le jour durant la dernière décennie du XXe siècle, dont 2 sont désormais membres de l'Union Européenne, la Slovénie et la Croatie. Une période qui aura également été une décennie de conflits quasi permanents dans les Balkans. Seule la Macédoine, en fait, a accédé à l'indépendance sans avoir eu à faire la guerre.
Éric Biegala, c'est aujourd'hui la 15e journée mondiale contre la peine de mort. L'occasion de faire un point sur la pratique de la peine capitale dans le monde avec vous, Nadine Epstein. Bonsoir.
Bonsoir.
La tendance abolitionniste continue de progresser. De plus en plus de pays renoncent à exécuter des prisonniers. On est passé ainsi de 16 États sans peine de mort il y a 40 ans à 141 aujourd'hui.
Et le plus récent pays à avoir rejoint les États abolitionnistes est la Mongolie en juillet dernier. Elle a abrogé la peine de mort pour tous les crimes. C'est le Moyen-Orient qui persiste à procéder à des exécutions de masse et on retrouve toujours les mêmes. L'Arabie Saoudite qui a tristement célébré son centième exécuté cette année, l'Iran, l'Irak et dans le peloton de tête également le Pakistan et la Chine où cette question est toujours secret d'État. Et ce sont entre 1500 et 1600 personnes qui sont pendues, décapitées ou tuées par injection létale, un chiffre plus élevé que l'an dernier en raison notamment de certains États américains qui ont repris cette horrible pratique comme la Floride. Plusieurs nations ont réintroduit dans leur code la peine de mort pour faits de terrorisme ou comme la Guinée qui se réserve le droit d'exécuter pour terrorisme bien qu'elle ait aboli la peine capitale. À l'occasion de cette journée mondiale contre la peine de mort, Amnesty International lance un appel pour un Malaisien condamné et menacé de sentence mortelle, Anne Denis.
Wu Ye-wan, condamné à mort pour trafic de stupéfiants. La Malaisie, effectivement, condamne et exécute des trafiquants de stupéfiants parce que la condamnation à mort est obligatoire pour ces faits-là. Donc, nous demandons la commutation de sa peine parce que dans les cas de ces condamnations à mort, on voit que très souvent, les preuves ne sont pas très présentes. Dans son cas, il ne parlait que le mandarin et on ne lui a pas traduit sur place en malais. Manque de traduction, manque de présence d'avocats, aveux extorqués par des gestes violents, etc.
Et dans le monde, le nombre de prisonniers qui attendent dans les couloirs de la mort avoisine les 28 000 personnes, entre 6 et 8 000 pour le seul Pakistan, et entre 2 800 et 3 000 détenus aux États-Unis, une diminution due principalement au fait que les condamnés à mort, enfermés depuis des décennies dans les couloirs de la mort, meurent de vieillesse ou de maladie.
Nadine Epstein, c'est l'une des 7 merveilles du monde classées par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité et pourtant le Taj Mahal n'apparaît plus dans les guides touristiques indiens. Derrière cette surprenante décision, l'illustration des difficultés de coexistence entre les différentes confessions religieuses du pays. Le gouvernement de l'état de l'Uttar Pradesh, où se trouve le Taj Mahal, est maintenant dirigé par les nationalistes hindous et il juge que ce mausolée musulman ne représente pas la vraie culture indienne. Les explications de Sébastien Farsi depuis New Delhi.
Notre gouvernement est nationaliste et religieux, or le Taj Mahal n'est le symbole d'aucune religion. Ces mots ont été prononcés hier par le ministre de la Culture de l'Uttar Pradesh, l'état où se trouve le fameux mausolée musulman, et ils viennent confirmer la position radicale de ce nouveau gouvernement d'effacer de la mémoire collective le plus célèbre monument indien sous prétexte qu'il n'est pas hindou. Le ministre en chef de la région, qui est un prêtre hindouiste, a répété que le Taj Mahal ne représentait pas la culture indienne et qu'il fallait arrêter d'offrir des miniatures du mausolée aux dignitaires étrangers. Il y a 2 semaines, une nouvelle brochure sur le tourisme régional ne faisait même plus figurer le majestueux monument de marbre blanc. Face à la surprise générale, le gouvernement a affirmé que ce document n'était pas complet. L'intention du ministre de la Culture semble toutefois claire. À la place du Taj Mahal, il aimerait promouvoir un temple hindou du XIe siècle qui est peu connu, même en Inde. Cela défie toute logique économique. Le Taj Mahal, classé au patrimoine mondial de l'humanité, est l'un des monuments indiens les plus visités, avec 8 millions d'entrées par an, et un touriste étranger sur 10 vient le contempler, dont beaucoup de chefs d'État qui posent en photo devant son magnifique dôme. L'association régionale des agents de voyage estime qu'environ 400 000 personnes vivent grâce au tourisme apporté par le Taj Mahal.
Environ 400 000 agents publics ont manifesté aujourd'hui en France, selon la CGT. Le syndicat a compté 45 000 manifestants à Paris. Ils étaient 26 000 selon la préfecture. Mobilisés contre la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat, contre le gel des rémunérations, contre le rétablissement d'un jour de carence en cas de congé maladie, il y avait des enseignants, des policiers, des agents de Pôle emploi, des infirmiers, répondant à l'appel des 9 fédérations de la fonction publique. Annabelle Grelier, vous étiez dans le cortège parisien et vous avez rencontré des fonctionnaires très remontés.
En colère, Sophie. Cette jeune enseignante n'avait pas envie de se priver de le dire aujourd'hui.
Macron, son mépris en fait d'un peu toutes les catégories sociales en dessous de la sienne, on va dire. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Je crois que tout le monde en a ras-le-bol, la rue en a ras-le-bol. On est traité de fainéants, on est traité de plein de choses et on ne peut plus le supporter.
Enseignante dans le privé, il est pourtant rare qu'elle descende dans la rue. Mais cette fois, la situation est grave, pense-t-elle.
Les enseignants du privé sous contrat sont payés par l'État. On est à moitié répondant du public et en même temps dans des établissements privés gérés par ce qu'on appelle des OGEC, donc des organismes privés. Donc on souffre des deux côtés en fait. C'est-à-dire qu'on a toute la loi travail, les réformes, les ordonnances qui s'appliquent au niveau privé et en même temps on souffre des suppressions de postes du public. Et de la journée de carence, voilà, un peu tout. Double peine, double raison.
Dans le cortège, la police également, plus souvent en face qu'aux côtés des manifestants. Aujourd'hui, Ophélie, syndiquée à l'UNSA, estime qu'il fallait dénoncer le traitement aux forces de l'ordre infligé par le président Macron.
Outre les promesses non tenues, le gel maintenant, alors oui, monsieur Macron aime sa police. Nous en sommes conscients, mais les fonctionnaires en général et les fonctionnaires de police ne peuvent pas tolérer de rester dans cette situation économique, la situation actuelle. On a fait le choix d'un métier qui est difficile, mais il y a un moment donné, on ne peut pas travailler dans des commissariats où vous avez des rats qui passent entre vos jambes, des douches qui ne sont pas en état de fonctionner, des commissariats qui sont vraiment insalubres.
Et même à Bercy, les agents de la finance publique étaient venus dénoncer les réductions d'effectifs et la culture numérique de leur ancien ministre.
La réduction d'effectifs n'est pas compensée par la dématérialisation. Le compte n'y est certainement pas. Hein. En termes de moyens, le compte n'y est pas. C'est pas parce qu'on donne des beaux outils, des belles machines et des belles applications, à supposer que ce soit des belles applications, que le travail se fait tout seul. Hein.
C'est donc avec force que les syndicats de la fonction publique entreront en négociation salariale au ministère le 16 octobre prochain.
Les manifestations étaient généralement calmes, mais à Paris, 3 agences bancaires ont été la cible de jets de projectiles et 8 personnes ont été interpellées. Le projet de la métropole du Grand Paris réussit à mobiliser contre lui l'ensemble des présidents des départements de l'Île-de-France. Le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé cet après-midi qu'une conférence serait prochainement organisée sur ce sujet. Et ce qui semble se dessiner, c'est un regroupement de la ville de Paris avec les 3 départements de la Petite Couronne. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Les présidents de départements de la Petite et de la Grande Couronne parisienne, de droite comme de gauche, sont vent debout. Qu'est-ce qui pose problème au juste ?
Déjà, c'est la manière dont se met en place ce projet. Officiellement, il doit y avoir une consultation des élus concernés avant l'élaboration d'un projet de loi l'année prochaine, en 2018. Mais parallèlement, il y a des articles de presse qui sortent et puis surtout des propos sous le manteau de conseillers ministériels qui indiquent que tout serait déjà décidé, que la métropole regrouperait la ville de Paris plus les 3 départements de la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, départements qui seraient donc amenés à disparaître, ce qui fait bondir tout le monde, à commencer par les présidents des départements concernés, comme le communiste Christian Favier pour le Val-de-Marne. Selon lui, les habitants auraient tout à y perdre en termes de services de proximité.
Par exemple, il se passe quelque chose qui ne va pas bien dans un collège. Bon, c'est très facile, on interpelle l'élu qui représente le département au conseil d'administration du collège pour dire, voilà, bon, il faut refaire telle classe, il manque tel équipement, etc. Demain, si le département n'existe plus, cette compétence, est-ce qu'elle sera renvoyée à la région, est-ce qu'elle sera renvoyée à la métropole? On sera à un échelon évidemment beaucoup plus lointain, on n'aura plus du tout la même proximité pour résoudre ce type de problème.
Et puis il y a les présidents des autres départements, ceux de la Grande Couronne, comme Pierre Béguier, le patron des Yvelines, qui craint d'être relégué en deuxième division, celle des territoires qu'on met à l'écart de la richesse et du développement économique.
On va en fait couper l'Île-de-France en deux. L'idée serait d'avoir une métropole réduite à Paris et à la Petite Couronne, et une espèce de mur institutionnel dressé entre cette métropole condensée et puis la Grande Couronne. Ça veut dire à court terme une perte de richesse qui ira en s'accentuant décennie après décennie. C'est dans le temps que ça va changer beaucoup. La concentration de la richesse ne va se faire qu'au centre de la région parisienne.
Cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a tenté de rassurer tous ses élus en expliquant qu'il est extrêmement complexe de transférer des compétences et que personne au sein de l'exécutif n'a l'intention de créer du désordre supplémentaire dans la répartition de ses compétences. Il a dit également que les choses ne pouvaient pas rester en l'état et qu'il fallait avancer sur la question Tout ça devrait être précisé très prochainement puisqu'une conférence sur le Grand Paris doit réunir tous ses élus autour du président de la République. A priori, c'est programmé pour le début du mois de novembre.
Stéphane Robert, le projet de loi sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures a été largement adopté en première lecture à l'Assemblée. Ce texte porté par Nicolas Hulot met fin à l'octroi de permis de recherche d'hydrocarbures pour permettre une cessation progressive de la recherche et de l'exploitation des gisements d'ici 2040. Greenpeace s'inquiète du manque de sécurité des centrales nucléaires. L'organisation non gouvernementale vient de publier un rapport d'experts sur les centrales françaises et belges. Elles sont, selon Greenpeace, très mal protégées face au risque d'actes malveillants et d'actes terroristes. Un avis que ne partagent pas EDF et Areva. Véronique Rebérot.
Les experts français et étrangers mandatés par Greenpeace sont formels. Les piscines de refroidissement de combustible usé de toutes nos centrales nucléaires ne résisteraient pas à une attaque par avion, par drone ou hélicoptère chargé d'explosifs, ni à des armes anti-chars. Malgré le 11 septembre 2001, le risque d'attentat n'est pas assez pris en compte. Yannick Rousselet, chargé du nucléaire à Greenpeace.
Évidemment, l'ensemble des mesures qui sont prises aujourd'hui en termes de sécurité sont dans le domaine du secret de la défense, mais malgré tout, on peut penser qu'il y a un certain nombre de choses de fait avec une certaine compétence. Le problème, il est en termes du génie civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos installations ne prennent pas en compte ce risque dans la mesure où elles étaient conçues dans les années 70-80, et à l'époque, personne n'aurait imaginé que quelqu'un volontairement précipite un avion sur une installation. Nos piscines en génie civil, aujourd'hui, ce sont des hangars agricoles, il faut être clair sur la question. Si l'on fait un trou dans la piscine, par exemple en projetant un avion volontairement sur ces piscines, l'installation ne résisterait pas et donc on aurait une vidange de la piscine. Et si les combustibles qui doivent être refroidis en permanence par l'eau de la piscine ne sont plus refroidis, on aurait là immédiatement un dégagement extrêmement important de radioactivité. Ces radioéléments partiraient à l'extérieur dans l'atmosphère.
Démenti formel d'EDF, le risque terroriste n'est pas négligé. En termes de surveillance, surtout, Philippe Sasseng, directeur du parc nucléaire d'EDF.
Nous remettons en cause au quotidien ce que nous faisons, et c'est ça la sûreté nucléaire. Nous avons actuellement encore un programme d'investissement de plus de 700 millions d'euros en cours sur nos centrales sur ce sujet parce que nous nous dotons de toutes les nouvelles technologies, en particulier aujourd'hui dans ces domaines de la détection autour de nos centrales, de surveillance par caméra, etc. Il y a plein de dispositifs que l'on met qui sont issus du retour d'expérience des services de l'État spécialisés dans le domaine, suite donc à toutes les attaques que l'on peut voir, soit en France ou à l'étranger, malheureusement.
Bunkériser les piscines nucléaires, comme le préconise Greenpeace, coûterait très cher, 1 milliard par réacteur, 60 milliards d'euros pour l'ensemble du parc nucléaire français.
Au cours de son séjour dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet n'a pas seulement pris des photos pour les réseaux sociaux. Pendant ses 6 mois de mission, le spationaute a été un cobaye studieux pour les chercheurs de l'INSERM qui étaient pour la première fois associés aux expériences. Des expériences sur le corps privé de gravité, les conséquences sur les muscles, les os, les artères, le système nerveux d'un séjour dans l'espace et sur les effets des radiations. Mais est-ce que ces recherches peuvent aussi servir sur Terre, Sophie Becherel?
Depuis Yuri Gagarine, environ 500 astronautes ont volé dans l'espace, de 2 jours à plus d'un an, et parfois plus en séjours cumulés. Les recherches scientifiques ont surtout permis de mieux comprendre la physiologie humaine en l'absence totale de gravité et ont aussi permis parfois de mettre au point des contre-mesures. Exemple avec l'ostéoporose, dont tous les astronautes sont victimes, même jeunes. Quelle retombée pour nous, terriens, de cette recherche? La réponse de Laurence Vico, chercheuse à l'INSERM.
Elle a déjà des applications parce qu'on sait quel est le type d'exercice physique qu'il faut faire pour essayer de renforcer le squelette. Donc, même s'il n'y avait pas eu les astronautes, on aurait eu des notions. Mais les astronautes, disons que c'est un moteur supplémentaire d'accélérateur de connaissances dans ce domaine.
Problème de vision, adaptation cardiovasculaire, l'espace a aussi permis d'étudier l'impact de la sédentarité. Elle fait aujourd'hui autant de morts que le tabac, rappelle Guillemette Gauquelin-Corps du CNES. Et les astronautes, hormis les 2 heures de sport qu'ils font par jour, sont très sédentaires. Du coup, certains de leurs organes font du gras. Guillemette Gauquelin-Corps.
En fait, on voit qu'il y a un remodelage total de la physiologie dans le cas de l'inactivité physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens bougent de moins en moins. Les gens disent qu'ils font d'exercice. Oui, ils courent 7 heures le dimanche au point de Vincennes. Non, ce qu'il faut, c'est se lever tous les quarts d'heure de sa chaise, marcher 10 minutes et revenir s'en mettre devant son ordinateur. En moyenne, les gens sont 7 heures par jour devant un ordinateur.
Autre avancée des missions spatiales, les technologies que les ingénieurs mettent au point. Elles sont miniaturisées et désormais transposables en télémédecine. Comme cet échographe piloté à distance par un simple opérateur, à l'heure des déserts médicaux, il est fonctionnel.
Sa voix vous était peut-être familière. On a appris le décès du journaliste François Gaud, ancien correspondant de Radio France à Varsovie. Je vous propose d'écouter un court extrait de l'une de ses interventions à la radio.
Pour cette élection présidentielle polonaise, 10 candidats sont en lice. 2 seulement des chances d'être élus. D'un côté, le libéral Bronisław Komorowski, 58 ans, 5 enfants, président du Parlement polonais et actuel chef de l'État par intérim. Il joue l'ouverture. De l'autre côté, le conservateur Jarosław Kaczyński, 61 ans, célibataire, à la tête de l'opposition et frère jumeau du président défunt.
François Gau, notre ancien correspondant. Pendant en Pologne, il avait 84 ans. Le temps restera nuageux demain au nord de la Loire. Les températures atteindront 18 à 22 degrés l'après-midi. Plus au sud, soleil généreux et maximal en hausse, 22 à 26 degrés, jusqu'à 29 au sud de la Garonne. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.